Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Maurice Bolduc? Pourquoi quatre fois bonjour? Oh, on t'entend pas. Ah, oh, mon Dieu. Ben écoute, on va te laisser le temps de trouver le bouton de micro parce que ça fait un an que Maurice. On n'a pas travaillé ensemble ici.
Ah, j'avais un bouton désassigné, voilà.
Voilà, alors, bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Maurice?
Je vois quatre personnes ici présentement.
C'est ça. C'est une très bonne réponse, parce que c'est quatre fois mieux qu'un seul bonjour. Hey, c'est le fun de te revoir, Maurice. Ça fait un an qu'on n'a pas travaillé ensemble,
presque. Ça fait un bout, oui.
Oui, oui. Ben, c'est pour le mois. Ça va pas trop rouillé ce matin?
Non. C'est comme le vélo, la mise en onde, c'est comme le vélo.
Ouais, ah, c'est...
Ça lâche pas.
Ouais, juste quand on... Par contre, quand on arrive dans un trou de lapin ou un trou de poule, un nid de poule à Montréal, ben c'est sûr qu'on peut prendre des barques, mais ça, c'est pas savoir aller en ville, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, juste pour vous dire, avant d'aller plus loin, à la météo, au Québec, en Ontario, dans les prairies, alternant soleil et nuages, probabilité d'averses et d'orages même cet après-midi, les maximums autour de 24 à 29 et des indices humidex qu'on dit 35. Hein? Alors ça va être un peu collant. Et puis l'indice UV de 8 est élevé. Par contre, la Gaspésie, ça reste beau et plus frais. Et un avertissement de chaleur au Manitoba. Et dans les provinces, des provinces maritimes, généralement ensoleillées au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, 26 à 27, on n'annonce pas de pluie, humidex à 31. C'est du soleil et plus frais à Terre-Neuve et Labrador, 14 à 16. La pluie à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, puis de la pluie en Colombie-Britannique, avec avec des avis de qualité de l'air, avec les feux de forêt, c'est assez extraordinaire. J'ai du monde dans le studio, on va les présenter. Bonjour à toi, Pierre Perrault, comment ça va?
Ben, ça va bien, merci.
Alors aujourd'hui, on fait de l'insolite encore au Québec?
Oui, écoute, on va un peu corriger le lapsus que j'ai fait la semaine passée avant Baie-Comeau puis la Matbé.
Oui.
Mais là, on va vraiment à Baie-Comeau, à Côte-Nord, ensuite au Mont-Saint-Hilaire, où il y a quelque chose d'assez surprenant, et puis à Godmanchester, j'avais jamais entendu parler de cet endroit-là.
Moi non plus.
Un village fantôme.
Ah, ouais.
Oui, dans le Haut-Saint-Laurent, près de la frontière des États-Unis.
Eh bien, nous, on va parler beaucoup de fierté aujourd'hui parce que, ben d'abord, c'est le Festival de Fierté Montréal, le plus grand festival francophone queer dans le monde, de la francophonie, évidemment. Mais il y a plus d'activités ici qu'il y en a même à Paris, il faut le dire. Alors, on va recevoir un des artistes invités, Dee Joyce, qui est chanteur, qui va nous parler de son spectacle. On va aussi recevoir, tiens, bien, il est là déjà, fait qu'on va dire un petit coucou. Allô, Claude Lalande.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, président de Fierté littéraire, qui est une des organisations qui tient des activités pendant Fierté Montréal. Donc, on va en discuter tout à l'heure. On a hâte de lire ça ou d'entendre. D'accord. Et puis, on va parler de lecture, hein, c'est ça.
Oui.
C'est pour ça que je fais le petit lapsus. On va aussi recevoir Chris Bergeron, qui est vice-présidente contenu de marque chez Cossette Communication, qui lance une campagne, une campagne de sensibilisation, les marches de fierté. Et vous allez voir que Chris a beaucoup de choses à dire sur ce qu'elle vit présentement elle-même en tant que personne trans. Et on va aussi recevoir Mathieu Lacan, qui lance une exposition sur Ozias le Duc, le plus grand peintre décorateur d'église québécoise. Et oui, il y a un rapport avec les fiertés, mais je vous garde la petite surprise pour l'entrevue. Aujourd'hui, 1940. C'est intéressant de parler de ça maintenant, alors avec tout ce qui se passe au sud de la frontière. C'est la sortie du film Le Dictateur, écrit, réalisé et interprété par Charlie Chaplin. Cette satire du régime nazi est devenue un classique du cinéma mondial. Toujours en 1940, première apparition du personnage de Bugs Bunny! Ben oui, Bugs Bunny, dans un court-métrage de Looney Tunes intitulé A Wild Hare, un lapin un peu sauvage ou un peu fou. Ce lapin espiègle deviendra une icône de l'animation. Journée de la Révolution en Espagne, 27 juillet, c'est la journée de la Révolution anniversaire de la révolte contre la dictature de Primo de Rivera en 1923. Et puis, c'est la journée nationale du Jersey en Uruguay aussi pour souligner la fierté nationale de ce pays. Et puis, une petite citation avant d'aller en musique. La guérison est une question de temps, mais elle est parfois aussi une question d'opportunité. Hippocrate.
Je suis en vacances, puis je fais ce que je veux. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah.
Ah, je suis en vacances, puis je fais ce que je veux. Ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux. Ça m'en prend peu pour
job si c'est que je la flush. Je veux caler, caler, caler. Tout ce que le barman pourra me donner. Le cerveau en congé maladie. Tellement que je vois tout oublier juste midi.
Je suis en vacances. Puis je fais ce que je veux. Ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux. Ça m'en prend peu pour être heureux. Je shot, shot. Ma bière, une clé de soleil en plein air. J'peux-tu shiner ma bête de mammifère? J'fais mon hot, hot, vélu gras. Cocktail en main comme une diva. Fuck ma job, j'bécote Nicole. Rien mieux qu'une bonne crème molle. Ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux. Ça m'en prend peu pour être heureux.
Je décale. Comme un bon vin d'une bonne cuvée. Dans mon hamac, j'suis tout dévaché. J'ai pas d'attente pour la journée. Je décante encore. Entre Saint-Pierre et Charlevoix. J'me craque une bière, j'me sens chez moi. Comme font les Québécois.
J'suis en vacances. Puis j'fais ce que j'veux. Ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux. Ça m'en prend peu pour être heureux. J'suis en vacances. Puis je fais ce que je veux, ça m'en prend peu pour être heureux. Des bobettes blanches, un jour sur deux, ça m'en prend peu pour être heureux. J'suis en vacances, mais j'suis en vacances.
Alors, on vient d'entendre « Je suis en vacances » de Classe moyenne avec Orange Lessard. Les unes maintenant, le devoir ce matin. En Europe, des incendies de forêt d'une ampleur exceptionnelle touchent le sud-ouest de la France et plusieurs régions d'Espagne, forçant le déplacement de plus de 325 000 personnes. En Gironde, le brasier a déjà ravagé plus de 42 000 hectares et s'approche à 15 km de Bordeaux, où un nuage de fumée obscurcit le ciel. Les autorités françaises indiquent que plus de 225 000 résidents ont dû quitter leur logement. Cela constitue la plus importante opération d'évacuation de civils dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Du côté espagnol, la situation est tout aussi critique, particulièrement autour de Madrid et de Valence, où 75 000 personnes ont été déplacées face à la progression imprévisible des flammes. Et puis maintenant, on va en Colombie-Britannique, où deux incendies majeurs menacent le secteur du village de Clinton, et ces deux incendies ont fusionné pour former un immense brasier. Il couvre près de 660 km². La trajectoire des flammes force l'évacuation de la collectivité de 70 Mile House. Bien que des bâtiments et des résidences aient été détruits en périphérie, le cœur du village de Clinton a été préservé grâce au travail d'interposition des équipes d'urgence. À l'échelle de la province, environ 140 brasiers demeurent actifs. Des équipes de renfort venues du Yukon, de l'Alberta et du Mexique arrivent en soutien. Dans la presse ce matin, le pont international Gordie Howe, qui relie la ville de Windsor à celle de Détroit au Michigan, s'ouvre à la circulation automobile à compter de midi. L'inauguration officielle s'est déroulée en fin de semaine en l'absence de représentants états-uniens dans un contexte de diplomatie tendue marquée. Cette nouvelle infrastructure à six voies permettra de délester le pont Ambassador, par où transite une part majeure des échanges commerciaux terrestres entre le Canada et les États-Unis. Et dans le devoir aussi ce matin, le suspect de l'attaque terroriste au camion Bélier en marge de la Marche des Fiertés à Berlin a été abattu par la police lors d'une intervention des forces spéciales. L'homme de 30 ans avait foncé en voiture dans la foule. Il a été localisé puis abattu alors qu'il opposait une résistance armée aux policiers. Les autorités confirment la thèse de l'attentat terroriste islamiste. La chancellerie allemande et le maire de Berlin ont fermement condamné cet acte, exprimant leurs condoléances aux victimes et saluant l'action rapide des forces de l'ordre. Ici, Bien Fierté Montréal, dont les activités commenceront vendredi, va renforcer les mesures de sécurité, mais invite la population à participer en grand nombre, en solidarité avec Berlin, et pour ne pas donner raison aux mouvances terroristes anti-queer et anti-trans, également menaçantes ici au Canada. J'ai le temps de faire quelques petites paractualités. Radio-Canada.ca aujourd'hui, le gouvernement du Québec confirme la relance du programme d'adaptation à domicile géré par la Société d'habitation du Québec à compter du 12 août. Les demandes d'aide financière avaient été suspendues il y a un an en raison de l'épuisement rapide du budget provincial. Cela a laissé de nombreuses personnes en situation de handicap en attente de travaux d'accessibilité essentiels comme l'aménagement de rampes d'accès ou l'adaptation de salles de bain. Malgré cette réouverture, des organisations de défense des personnes handicapées demeurent sur leur faim. Celles-ci soulignent que le retour du programme ne résout pas les délais d'attente accumulés au cours des derniers mois. Elles déplorent aussi l'absence de fonds supplémentaires pour répondre adéquatement à l'ensemble des besoins en maintien à domicile. Coop de l'information, hier, les consultations virtuelles pour le traitement des troubles de l'alimentation connaissent une hausse marquée durant la période estivale. Les cliniques spécialisées et les professionnels de la santé observent une augmentation de la demande de soins à distance, particulièrement auprès des adolescents et des jeunes adultes. À l'échelle nationale, les consultations augmentent de 54 % chaque été, avec une hausse de 73 % chez les Canadiens et Canadiennes âgés de 17 à 25 ans. S'il y a davantage de consultations virtuelles l'été, c'est notamment parce que les jeunes n'ont temporairement plus accès aux ressources scolaires et que leur horaire est chamboulé et aussi que la routine a changé. C'est aussi la saison des vêtements légers. Sur les réseaux sociaux, on nous vante le culte du corps parfait et les diètes minceurs miracles. Et si on ajoute à ça un état anxieux et de stress ou autre, ce sont des populations à risque.
Fais semblant d'y croire, mais ce soir, je suis faible quand elle passe par là. Et si l'amour dure qu'une nuit, tant pis. On profite du temps, loin des ennuis. Encore un verre, encore un sourire. Les corps se parlent mieux que les discours. Si demain faut redevenir sérieux, laisse-moi être fou jusqu'au lever du jour. On se promet rien, mais on se dévore. Juste assez pour vouloir encore. Si l'été fini qu'il nous trouve, essoufflé, bruyant un peu sourd.
Mitsu et Ya Setidon. C'est chaud.
C'est chaud, c'est chaud. Puis on va aller se promener là où il fait peut-être moins chaud, mais c'est toujours chaud en termes de surprenant. Alors, Pierre Perrault, on s'en va à Baie-Comeau.
Oui, on commence à Baie-Comeau ce matin parce que, ben, comme on l'a constaté lors des premières chroniques que j'ai faites les dernières semaines, le Québec recèle des endroits mystérieux et méconnus, rattachés à son histoire, à ses mythes, à ses légendes, puis bien ancrés dans la culture collective. Puis là, il y a plusieurs idées pour sortir des sentiers battus et explorer des coins surprenants du Québec. On va d'abord découvrir près de Baie-Comeau, sur la côte nord, un site où s'entassent des coquillages en plein cœur de la forêt à plusieurs kilomètres du fleuve. C'est impossible de s'imaginer, lorsqu'on se dirige vers ce site géologique post-glaciaire, parce qu'il y a eu la glaciation à un moment donné, en pleine forêt, qu'on y trouvera des dizaines de milliers de coquillages. Et pourtant, c'est bien cette expérience que nous convie le Jardin des glaciers. Mmh. On doit cet amoncellement de coquillages situé à plus de 10 kilomètres du fleuve Saint-Laurent, à la mer de Goldthwaite, qui immergeait la zone de l'estuaire résultat de la fonte de l'Islandis florentien. C'est des mots compliqués, là, mais les gens qui travaillent dans ce monde-là sont habitués d'entendre ce genre de termes. C'était un immense glacier qui recouvrait une bonne partie de la mer du Nord il y a 20 000 ans. Un guide sur place, un guide vous fera observer un banc coquillier qui atteint 15 mètres de hauteur, puis vous dirigera vers un site composé à 90 % de coquillages datant d'au moins 8 000 ans et même 10 000 ans. Vous pourrez ensuite prendre part à diverses animations, dont des activités de fouilles, identification. C'est situé en pleine forêt boréale, ce curieux phénomène est unique au monde. La visite du centre d'interprétation du Jardin des glaciers, aménagé dans une ancienne église, est incontournable. Pour découvrir comment la formation du glacier et sa fonte ont sculpté le paysage québécois, on y propose un passionnant parcours multimédia de 45 minutes. Donc, pour s'informer ou pour se rendre, on va voir sur Internet jardindesglaciers.com.
Croyez-vous aux ovnis, aux extraterrestres?
Ceux qui, parmi vous, je dirais pas les plus vieux, mais les moins jeunes, peut-être se rappellent d'un certain Richard Glenn qui animait une émission à la télé communautaire qui s'appelait « Ésotérisme expérimental ».
Ah non, je me rappelle de toi, non.
Où iriez-vous pour rencontrer des extraterrestres au Québec? Les ufologues amateurs vous dirigeront sans hésitation vers le Mont-Saint-Hilaire. Reconnu comme le noyau mystique de la province dans les années 1980, alors que l'émission ésotériste expérimentale de l'animateur Richard Glenn battait des records d'audience. En ondes sur une chaîne de télévision communautaire, cette émission présentait le Mont-Saint-Hilaire comme un repère d'extraterrestres ou même d'intraterrestres surgissant du centre de la Terre. Et le lac Hertel, au sommet, parce qu'il y a un lac au-dessus du Mont-Saint-Hilaire, comme une étendue d'eau sans fond. On y racontait aussi que le site était d'une richesse minéralogique inouïe et que les boussoles y perdaient le nord. Certains témoignages de cette époque relatent que le radar des avions qui passent près du mont se brouille spontanément. Et bien sûr, les légendes mettant en vedette le diable et l'Église abondent. Une impressionnante variété de mythes est associée au Mont-Saint-Hilaire. Traverser les portes de l'enfer, un arc rocheux situé au pied du mont, mènerait directement chez le diable. Des bruits étranges proviendraient des trous de fées, ces crevasses insondables qui parsèment le paysage. Un cheval de glace sur le flanc de la montagne indiquerait, en fondant, le moment approprié pour commencer les sommeils. Donc, vous voyez, plein de légendes et d'histoires autour du Mont-Saint-Hilaire. Contrairement à la croyance populaire, par contre, le Mont-Saint-Hilaire, âgé de 125 millions d'années, rien de moins, n'est pas un ancien volcan. Il renferme toutefois réellement plus de 350 minéraux différents, dont 40 qui sont propres à la région. Donc, si vous voulez aller voir une ancienne piste d'atterrissage d'extraterrestres ou quelque chose qui vous importe de les vérifier, bien, pour mieux s'informer sur les légendes et croyances à propos du Mont-Saint-Hilaire, on va au Centre Nature du Mont-Saint-Hilaire et on regarde sur le site web centrenature.qc.ca.
Pour voir, c'est des petits bonhommes verts qui se promènent.
Oui.
Et puis, on s'en va maintenant dans les ruines d'un village abandonné près de Huntington.
Oui, écoutez, j'avais jamais entendu parler de ça. Dans la campagne montérégienne, entre Huntington et Cazabille, il faut emprunter le chemin de la rivière Laguerre afin de repérer près de la rivière Laguerre les ruines d'un village abandonné. On verra l'ancienne église dont ne subsistent que les quatre murs au fond d'un champ sur la rive gauche du cours d'eau. En se rapprochant, on découvre le cimetière qui compte un peu moins d'une centaine de sépultures. Il s'agit des vestiges de Godmanchester, un village éphémère. Ce hameau, fondé dans les années 1820, fut habité pendant seulement 30 ans. En 1830, il comptait une quinzaine de familles de colons écossais, totalisant environ 80 personnes, qui y ont construit une école de rade, des magasins, etc. Étonnamment, l'église, qui s'appelait le Calvin Presbyterian Church, a été érigée quelques années à peine avant que le village se dépeuple brusquement vers 1850. L'église offrit néanmoins des services jusqu'en 1941. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps?
Oui, on a encore du temps.
OK. Deux raisons expliquent l'exode des habitants. D'une part, le village s'est retrouvé en zone inondable à la suite de la construction du premier canal de Beauharnois qui a précédé la voie maritime du Saint-Laurent. Et d'autre part, il se trouva davantage isolé car les nouveaux bateaux de ravitaillement qui passaient dans le fleuve, à proximité, à vapeur et plus gros, ne passaient plus par la rivière Laguerre. Un plan élaboré du village a été retrouvé. Il indiquait un quadrillé, des rues bien droites avec une place publique au centre. De la rue principale, il ne reste plus qu'un petit chemin de terre. L'immigration écossaise connut un certain essor entre 1815 et 1878, alors que 170 000 Écossais, principalement des presbytériens, ont immigré au Canada. Parmi eux, plusieurs choisissaient de s'installer au Québec avec l'appui du gouvernement britannique et le soutien financier des compagnies privées. L'histoire ne dit pas combien de descendants de ces familles subsistent encore ici et ce qu'ils sont devenus. Une autre belle curiosité à visiter et qui sait, peut-être, des esprits des anciens rôdent toujours au-dessus des ruines. Pour s'y rendre, on cherche Village abandonné de Rivière-la-Guerre à Godmanchester. La semaine prochaine, je vous réserve d'autres curiosités des régions du Québec pour notre dernière chronique avant le retour de votre chroniqueur habituel.
Merci beaucoup, Pierre Perrault.
Ça m'a fait plaisir.
Mais il n'y a plus personne, ni corazon, nul que je n'ai vu dans cette cité perdue, loin de la foule, la mer sans houle, à l'orée de mon souffle, là où tout glisse et coule.
La routine effrontée à l'eau, tout est raté. Si les abusés, je me tourne vers mon journée pour me demander à quoi bon continuer à vivre si névrosé. Au large de la voûte, je trace ma route vers l'inconnu, vers ma cité perdue.
Cité perdue par Félix Brassard.
Dans l'hebdo-journal du 25 juillet, des intervenants et des personnes atteintes de maladies chroniques dénoncent un écart bureaucratique au sein du gouvernement fédéral canadien quant à la définition de handicap ou du handicap. La loi canadienne sur l'accessibilité reconnaît les handicaps épisodiques. Or, l'accès à la nouvelle prestation canadienne pour personnes handicapées exige d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le critère impose une limitation fonctionnelle présente au moins 90 % du temps. Cette condition exclut de nombreuses personnes souffrant de limitations fluctuantes, notamment celles atteintes de sclérose en plaques, du VIH ou de symptômes persistants de la COVID-19. Les organismes de défense réclament un alignement des critères d'admissibilité pour refléter la réalité des incapacités intermittentes. Le ministère de l'Emploi et de la Famille défend le déploiement du programme sans justifier cette différence de définition. Un texte de Kevin Breton dans Radio-Canada.ca du 24 juillet. Au jeu du Commonwealth, la représentativité des personnes en situation de handicap franchit une nouvelle étape avec l'intégration accrue des épreuves parasportives. Ce modèle d'inclusion amorcé lors des Jeux de Manchester en 2002, où les médailles paralympiques ont pour la première fois compté au tableau officiel des nations, continue de servir de référence internationale. La sénatrice et ancienne championne paralympique Chantal Petitclerc est devenue la première athlète en fauteuil roulant à remporter une médaille d'or officielle, puis à porter le drapeau canadien lors de la cérémonie d'ouverture à Melbourne en 2006. Elle souligne la progression des mentalités. Elle rappelle toutefois que la pleine égalité dans les structures sportives exige un accès continu aux infrastructures et aux financements et aux couvertures médiatiques pour l'ensemble des athlètes. Et j'ai le temps donc de vous parler un petit peu de météo avant la pause. Donc au Québec, en Ontario, dans les prairies, alternance de soleil et de nuages aujourd'hui, possibilité d'averses et de risque d'orage en après-midi, maximum de 24 à 29, humidex autour de 35, indice UV de 8 ou élevé. En Gaspésie, c'est toujours très beau, pas de pluie et c'est plus frais. Avertissement de chaleur aussi au Manitoba. Généralement ensoleillé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, 26 à 27 degrés, humidex à 31. Et c'est du soleil, mais plus frais à Terre-Neuve-et-Labrador, de la pluie à Saint-Jean de Terre-Neuve. Et c'est de la pluie aussi en Colombie-Britannique, avec un avis orange de qualité de l'air. Après la pause, nous allons parler avec Dee Joyce, chanteur qui va participer à Fierté Montréal. Et nous recevons aussi Chris Bergeron, vice-présidente de contenu de marque chez Cosette Communication. Chez Cosette Communication parce que, ben, ils ont lancé une campagne de sensibilisation, les marches de fierté. Et une campagne qui arrive quand même à un point important avec ce qu'on a vécu ce week-end, avec l'attentat terroriste anti-queer à Berlin. Ça a secoué pas mal tout le monde sur la planète et surtout les milieux queer. Et déjà que Fierté Montréal a réagi en disant que la sécurité sera renforcée lors des activités qui commencent le 31 juillet, qui est pour une durée de 10 jours, et qui invite tout le monde quand même à participer pour ne pas se laisser démonter par ces attentats-là et rester aussi solidaire avec Berlin. Donc tout ça après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Causer ma faim, j'ai rempu le sol loin de la mort, j'ai crié, je suis en vie. Sorti du noir, fallait y croire pour vaincre l'hémorragie. L'amour, j'en ai envie et je l'envisage. Bright, mon avenir loin de ces regards qui me dévisagent.
Le vent qui tourne, l'aube se manifeste au lever du jour. La mer est douce, emporte ma tristesse pour trouver l'amour.
Garde-moi dans les yeux, tu verras ton reflet. Touche mes lèvres avec les tiennes pour renouveler ma paix. Regarde-moi dans les yeux, tu verras ton reflet. Touche mes lèvres avec les tiennes pour renouveler ma paix.
Je vent qui tourne, la mer est douce. Je vent qui tourne.
On vient d'entendre L'heure d'aimer du chanteur D. Joyce. Il est accompagné d'Erden Zexantis. D. Joyce est une voix singulière de la scène soul, gospel et pop, reconnue pour son authenticité et la profondeur de ses interprétations. On lui parle aujourd'hui à l'émission parce qu'il est en spectacle ce samedi 1er août à 19h sur la scène Loto-Québec, rue Sainte-Catherine-Est, au coin de l'avenue Papineau, dans le cadre du festival Fierté Montréal. Bienvenue, D. Joyce. Merci d'être avec nous.
Hello. Ben merci à toi de me recevoir. C'est très apprécié. Merci beaucoup.
On est très contents. Alors, comment décrirais-tu l'essence de ton style pour quelqu'un qui te découvre aujourd'hui?
Oh my God, c'est toujours l'éternelle question.
C'est compliqué, je dirais, hein?
Un style rempli d'amour. Effectivement, c'est très R&B, pop, parce que je m'influence des chanteurs qui ont bercé mon enfance, comme Usher, Chris Brown, Ne-Yo, qui sont très R&B lover. Mm-hmm. Et au final, c'est voilà, de la musique remplie d'amour et de joie.
Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans ta vie qui a dit « OK, moi, je vais faire de la musique, je vais chanter » ?
Ah, c'est Michael Jackson.
En ah
fait,
bon?
Ouais, c'est les premiers vidéoclips que mon oncle m'a mis sous les yeux et qui m'ont juste fait penser que je pouvais un jour moi aussi devenir Michael Jackson, chanter, danser. Et de là, j'ai nourri ça intérieurement jusqu'à, bah, en fait, finalement, depuis ces dernières années, le faire de manière officielle, quoi.
Alors, tu chantes et tu danses sur scène.
Ouais, exactement.
Parle-moi un peu de ton processus de création. Comment tu te prends pour créer une chanson?
Bah, en fait, c'est, je pense, assez simple dans la mesure où je suis souvent chez moi, un peu dans ma chambre, dans mon salon avec ma guitare. Et là, j'écris, je compose des chansons. Et après, comme je ne suis pas du tout Jimi Hendrix ou un très, très grand musicien, bah, là, je fais appel à des compositeurs à moi qui viennent faire le travail plus final de la chanson. Et après, on part en studio. Et le plus important pour moi, c'est de sortir des chansons qui me ressemblent et qui vont peut-être faire un impact aussi dans la société. Donc, c'est ça que je m'efforce à faire depuis que je développe des projets plus complets comme des albums.
On entend le travail dans ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, le travail de studio, c'est très minutieux. On voit que c'est très bien fait, puis on voit que tu mets beaucoup d'efforts. Quand tu te retrouves sur scène, c'est toujours un petit peu différent. C'est quoi la différence pour toi?
La différence entre le studio et la scène, je te dirais que c'est l'authenticité.
Oui.
Parce qu'en studio, on crée, on fait des découpages, on vient faire des assemblages de plusieurs choses qui vont nous inspirer. Et sur scène, on est nu. On est nu au sens...
figuratif, oui.
Exactement. Et en fait, on vient livrer ce qu'on a travaillé, on vient livrer notre âme, on vient connecter avec le public. Et c'est ça la magie du live. C'est pour ça que je préfère en général plus la performance scénique à la performance studio finalement.
Tu offres un spectacle solo pendant Fierté Montréal. C'est important pour toi de participer à Fierté Montréal? Pourquoi?
Totalement. En fait, j'y vais depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, je me suis toujours dit que le moment où j'allais sortir un album où je fais mon coming out, coming in, je voulais être sur la scène de Fierté justement pour aussi représenter mes communautés afro-queer, mais aussi pour envoyer un message de célébration de qui on est, surtout dans une époque où on est quand même en danger, je trouve, la communauté. Et ça fait mal au cœur de voir ce qui se passe dans le monde encore récemment avec...
avec Berlin.
Exactement.
Oui, justement, j'étais pour aller là. C'est important aussi de se célébrer alors qu'il y a quand même une mouvance très, très haineuse vis-à-vis de nous.
Oui, totalement.
Dans cette chanson qu'on vient d'entendre, je vais le dire parce qu'on entend Erden Zexantis... Les gens qui connaissent Erden, ils jouent dans plusieurs séries télé, dont Antigang, entre autres choses.
Exactement.
Moi, je ne le connaissais pas comme chanteur.
Ouais, en fait, je pense que c'est une surprise pour beaucoup. Faut savoir que Erden, c'est quelqu'un qui a grandi dans le gospel, dans la chorale et qui est même musicien également. Et peu le connaissent en tant que, justement, chanteur. Et là, il fait son début, parce qu'il a sorti un EP aussi, oui, avec de la musique. Il a été finaliste des Francouvertes aussi cette année. Et je suis vraiment content qu'il m'ait fait l'honneur d'être sur mon album parce que c'est quand même une grande célébrité ici au Québec. Et il m'a dit, c'est quoi, D. Joyce, on va le faire ensemble parce qu'il a aimé le message de célébration de nos identités qui sont plurielles. Et donc, c'est ça qui l'a retenu. Je suis très content de l'avoir sur ce projet.
Le spectacle qu'on va voir à Fierté Montréal, qu'est-ce que tu nous réserves?
Alors là, je suis tellement content parce qu'à Fierté Montréal, je vais faire le spectacle que je rôde depuis quasiment 2-3 ans. Dans plusieurs festivals où justement je développe mon identité artistique sur scène. Et là, ça va être l'aboutissement. Et rien qu'il y a quoi de plus beau que de le faire entouré de personnes qui me ressemblent, qui partagent les mêmes opinions, valeurs que moi. Donc, je suis vraiment content. Ça va être de la chanson, ça va être de la danse. des outfits aussi, parce que j'adore les tenues. Et là, je suis habillé par un designer qui s'appelle Undisclosed, qui m'a fait la tenue pour Fierté Montréal. Et vous allez voir, ça va être juste super beau.
Donc, on va devoir chanter, on va devoir danser.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des gens avec toi sur scène?
Oui, sur scène, il y a mes deux danseurs.
Ouais.
Incroyable, Trey and Joe. Et il y a DJ Pistef qui m'accompagne au DJing. Et il y a quelques surprises aussi.
Bon, autre Fierté Montréal, je sais que tu as un album là, qui est sorti.
Oui.
Et qui est disponible sur les plateformes de téléchargement. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi qui s'en viennent?
Alors, pour moi, je te dirais que maintenant, c'est beaucoup de la scène. Donc là, on a fait pas mal de festivals. Donc oui, Fierté Montréal, ce samedi 1er août. Il y a aussi le festival Afromonde le 6 août. Mm-hmm. Et après, il y a plein de shows jusqu'à octobre. Et après, pour moi, ça va être le retour en studio pour commencer à travailler un nouveau projet pour peut-être 2028, je l'espère. Et sinon, c'est de continuer à faire le parcours des centres de jeunesse pour faire de la sensibilisation sur le consentement, la résiliation et pour voilà, parler aux jeunes aussi de ce qui est important pour la société.
Alors ça, je n'étais pas au courant. Tu fais du travail auprès des jeunes. C'est nouveau? Ça fait longtemps?
Ça fait environ 2 ans et demi. En fait, depuis que j'ai sorti mon deuxième album « Grand garçon » qui parlait de la lutte contre les violences conjugales. Et ensuite, maintenant, je me suis dit que le meilleur moyen de pouvoir changer les choses, c'est de passer par la jeunesse, parce que ce sont nos citoyens de demain qui vont aussi voter. Et donc, je le fais récemment. J'étais à l'organisme Jeunesse Lambda. Mmh. On a parlé aux jeunes personnes queer et je trouve que c'est important de faire ce travail en tant qu'artiste. Et quand on a cette plateforme, comme même toi à la radio, de commencer à véhiculer des beaux messages et de faire de la sensibilisation.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Est-ce que tu as une histoire ou c'est qui t'a amené à prendre la parole et à vouloir faire de la sensibilisation comme tu le fais?
Oui, je pense que c'est mon histoire personnelle d'enfant victime de violences conjugales au sein de mon foyer. Et en fait, c'était en hommage à ma mère. Mmh. C'était pour lui rendre un message d'amour pour toutes ces années qu'elle a pu sacrifier pour nous. Et je me suis dit que si je peux faire moi aussi ma part pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui vont me regarder et pour leurs enfants, je suis tellement content de pouvoir faire une différence et d'avoir eu le soutien du gouvernement du Québec sur ce projet-là. C'était juste une grande gratification, mais aussi un message de ma mère qu'on peut faire changer les choses.
Alors, les gens qui veulent découvrir ce que tu fais, ce que tu écris, ils vont où pour trouver ta musique et tes chansons?
Alors, ils peuvent aller partout, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Google en tapant D-Joyce. Mmh. Et vous êtes tombé sur tous ces projets. Il y a 3 beaux albums que j'ai pu proposer à date et il y a de tout. Je pense qu'on peut trouver son goût sur mes projets.
Et je termine, on revient sur Berlin. Si tu avais un message aujourd'hui à envoyer aux gens qui ont vécu cette horreur ce week-end ou qui l'ont vécu de loin parce que pas tout le monde était là. Je sais que Martine Roy, qui est une habituée de l'émission ici, est là présentement à Berlin. Elle a un peu vécu ça, cette marche des fiertés. Toi, si tu avais un message à dire aux gens là, qui sont un peu effrayés de tout ce qui se passe?
Je dirais, allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Aller dans les organismes qui se mobilisent pour continuer à être ensemble. Restons mobilisés, n'ayons pas peur de montrer qui nous sommes, qui on est, dans nos plus belles couleurs. Et on sait que c'est très difficile. Déjà, on fait un gros message de soutien à toutes les familles qui sont touchées, toutes les victimes, les blessés. Et voilà, on reste fort. On continue de briller par notre lumière.
Un grand, grand merci à toi, D-Joyce, qu'on pourra voir donc 1er août à 19h sur la scène de l'Auto-Québec, sur la rue Sainte-Catherine-Est à Montréal pour ceux qui habitent la région ou qui s'y rendent au coin de Papineau. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi.
Love the way you flirt. It's so obvious but you're so cold. I make it hurt like nothing's better.
fleurs, des fleurs, toujours des fleurs, évidemment. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je suis pas le pire des amants. D'ailleurs, si je t'en fais une, non, c'est pas que j'ai des sentiments. C'est juste que j'aime ta fleur, je voudrais qu'on passe un bon moment. C'est juste qu'on y met les formes un peu tout le temps. Du coup, ben tu le sais que j'aime tes formes, évidemment. Mais oui, ce que j'aime, c'est qu'elles sont hors normes tout bonnement. Ça vole pas très haut, mais je ne suis qu'un homme, évidemment.
Évidemment.
Tovlo et Stromae nous chantaient des fleurs.
Eh bien, oui, hein, on regarde une thématique un peu Fierté Montréal parce que ça commence ce week-end, puis on va en profiter pour parler d'enjeux très importants pour les personnes queer et trans. Le Conseil québécois LGBT et Cosette Communication ont dévoilé la plateforme interactive Les Marches de la Fierté qui cartographie les histoires intimes et le courage d'habiter l'espace public. Je pense que c'est une campagne de sensibilisation qui vient à point avec ce qu'on vit présentement et surtout cet attentat à Berlin. Pour en parler donc de ce projet, je reçois Chris Bergeron, vice-présidente de contenu de marque chez Cosette.
Bonjour.
Cosette est également autrice et une des instigatrices de la campagne. Salut Chris.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut parler de Berlin? Comment tu as vécu ça ce week-end?
Ben évidemment, c'est le sujet de l'heure, c'est notre peur, j'imagine, à tous. De se retrouver dans une situation où notre vie est en danger au moment d'une célébration, c'est quelque chose d'horrible. Je pense aux gens de la communauté aussi à Berlin qui sont coincés maintenant entre deux forces, deux extrémistes en quelque sorte, parce qu'évidemment, dès que ce drame a eu lieu, ça a été aussi... rattrapé par les partis d'extrême droite. Mmh. Et donc, évidemment, parce que la personne qui a commis l'attentat était on pense que c'est du terrorisme islamiste. Et donc, la communauté est prise en étau, et c'est entre deux extrémismes, et c'est terrible. Et donc, évidemment, ben, à l'intérieur de ça, il faut refuser de se faire instrumentaliser d'un bord ou de l'autre. Et c'est humainement tragique. Ce qui s'est passé, c'est aussi malheureusement j'imagine l'expression de ce qu'on pourrait appeler une internationale masculiniste, c'est-à-dire autant l'extrême droite prend toutes sortes de visages. Elle existe chez nous sous la forme d'un certain trumpisme qui vient des États-Unis et qu'on retrouve bien souvent ici, les incels, etc. Ils se retrouvent aussi dans d'autres pays, d'autres religions, d'autres. Mais au bout du compte, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont considérées comme non-hommes, mm-hmm. pas assez hommes, pas assez dans l'imaginaire collectif de ce qu'est... ce que devrait être un individu qui souffre. C'est terrible.
Terrible.
Ouais.
Bon, on va parler de cette campagne parce qu'elle vise en fait à contrer un peu ce genre d'attitude qui prend peut-être trop de place dans notre monde. Alors, comment est venue l'idée de la plateforme et de la campagne, donc les Marches de la Fierté?
Oui, c'est une idée qui est venue de deux créatifs chez Cosette, Fanny Tourin et Souleymane Diallo, avec qui on travaille à peu près chaque année sur des projets qui sensibilisent ce que vivent les communautés LGBT. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux créatifs-là, qui sont un peu des artistes hein, dans les agences de publicité, il y a plein d'artistes qui se baladent et qui ont des idées créatives, dont ces deux amis-là, ce sont des alliés, ce ne sont pas des membres de la communauté. Et ça, je trouve ça formidable. Il y a quelques années, ils étaient allés dans une manif anti-trans, ils avaient volé des affiches avec, oui. avec des commentaires horribles dessus, et ils avaient transformé ça en œuvre d'art, et il y avait eu un... Je pense qu'un de mes collègues était venu vous en parler.
Oui.
Donc, voilà, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette initiative, déjà, c'est que ça vient de gens qui sont sensibilisés. C'est bien de voir qu'il y a des straight qui sont sensibilisés à la cause. Et en fait, ils se sont posé la question, avec beaucoup de justesse, de la place de l'individu dans tous ces grands mouvements collectifs qu'on voit. Donc là, on va voir, comme tu disais, dans quelques semaines, les deux défilés, celui de la Fierté Indomptable et celui de Fierté Montréal, c'est bien, on va être des dizaines ou centaines de milliers de personnes à marcher ce jour-là. Nous, on voulait mettre l'accent sur les marches individuelles, sur le quotidien, c'est-à-dire pas juste cette journée du 9 août, mais qu'est-ce qui se passe les 300 autres journées de l'année? Eh bien, nous, on va au cinéma, on va chez le médecin, on va... Et à chaque fois, ce sont des petits combats, surtout chez les personnes les plus visibles. Il y a des petites victoires, il y a aussi des moments qui peuvent faire peur. Juste récemment, mon Dieu, jeudi dernier, j'étais dans un drive-thru, j'allais me chercher un McDo et il y a quelqu'un qui m'a vu, qui s'est approché de la voiture et qui a craché par terre en me regardant. Donc, ce sont des choses qu'on vit...
En 2026,
mais il y a deux semaines dans le village, il y a aussi un gay avec sa meilleure amie qui se sont fait attaquer au pepper spray, donc au poivre de Cayenne. Voilà, ça arrive régulièrement. La haine, elle est présente dans les écoles, elle est présente un petit peu partout. Dans la lettre ouverte que j'ai écrite dans Le Devoir jeudi dernier, j'ai cité toute une pléthore, malheureusement, de chiffres qui sont plus désolants les uns les autres. Et donc, ils ont décidé de créer chez Cossette cette plateforme-là. J'y ai participé aussi et c'est vraiment chouette parce qu'ils sont tout de suite allés vers un réflexe qu'on a depuis longtemps dans la communauté, qui est celui de faire des cartes. Il y a toujours eu une cartographie des espaces safe dans notre histoire. C'était des documents qu'on se disait entre tel bar, tel endroit, là on a le droit, là on n'a pas le droit, etc. Tu sais.
Il y avait le guide Spartacus à certains moments. Oui.
Exactement, il y a eu Queering the Map, oui. qui a été une initiative et qui roule encore. Il y a une carte qui s'appelle Refuge aussi, mm-hmm. aux États-Unis pour les toilettes non genrées. Et donc c'est un réflexe naturel. Mais là, on le fait à l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de dire « voici les endroits où on est en sécurité », c'est dire « voici les choses que j'ai vécues et voici les parcours que j'ai faits ». Donc, ce n'est pas juste un point sur une carte, c'est toute une histoire qui vient avec et tout un parcours dans le temps aussi, dans l'espace. De là à là, qu'est-ce qui s'est passé et donc, chacune de ces petites marches sont individuellement des marches de la fierté et collectivement, l'expression de notre fierté collective. C'est très, très joli comme site web, comme approche, c'est très poétique.
J'ai vu qu'il y avait déjà certains...
Oui, déjà, les gens écrivent. Oui. C'est ça qui est formidable, c'est que nous, on a fait des entrevues, évidemment. On est allé chercher des gens qui ont participé à ça pour donner un petit peu le coup d'envoi. Mais là, les gens se l'approprient. Et là, on voit aussi des histoires du quotidien qui rentrent sur ce site web-là. Et, ben, j'espère que ça va continuer.
Et ça va donner quoi, au bout du compte, ce site-là, cette campagne?
Je pense que l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire, c'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est rien. Ça n'aura pas d'impact majeur. Par contre, ce que ça va avoir, c'est la possibilité, en tout cas comme opportunité, de présenter des conversations. Mmh. Donc, à cause de la création de ce site, il y a pu avoir la lettre ouverte dans Le Devoir, qui m'a permis de parler à Radio-Canada et d'essayer d'envoyer un message au grand public.
Et de parler de ça à Canalem.
Exactement, voilà. mais là, je parle d'essayer d'aller au-delà de notre communauté aussi. Donc, et donc, c'est toujours ça les objectifs de ce genre de campagne. On n'imagine pas qu'on va changer les choses avec quelques affiches, même si on en a beaucoup, un très, très beau site web. C'est toute la conversation qu'il y a à côté, à cause de ça. Et j'ai vu, parce qu'il y a aussi une c'est un site web, mais il y a une campagne d'affichage, donc j'ai vu plein de gens qui prenaient des photos et tout ça, ça va se voir dans la rue, ça va durer qu'un temps, évidemment, à la fin de la fierté, c'est terminé. Mais nous, on espère en tout cas que bah, le site, il va rester actif, mais surtout, on espère qu'éventuellement, on puisse faire ce projet-là ailleurs au Canada aussi, le faire vivre un petit peu, ça serait bien.
Parlons de toi, Chris, parce que tu es une personne, je peux le dire, tu es une femme trans, une femme, et tu as vécu relativement bien cette situation, mais récemment, les choses se sont envenimées.
Je trouve que récemment, c'est-à-dire, au début, c'est toujours, les débuts de transition sont toujours difficiles, mais c'est
une
vrai
femme
que...
d'à peu près 6 pieds, c'est sûr que des fois, c'est impressionnant.
plus de 6 pieds, malheureusement, oui, c'est ça. Enfin, ou heureusement,
là-dedans,
c'est... ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai un petit côté, Valkyrie. mais c'est bien, mais ça veut dire que, justement, mon côté Valkyrie peut-être m'a protégé. Ouais. peut-être que les gens ne veulent pas m'attaquer dans la rue à cause de
mais
ça.
Mais tu as changé ta façon de te comporter en public ou de...
Oui, peut-être plus naturellement, à cause de la peur qui s'est installée, j'ai l'impression que je mets moins souvent des robes. J'étais connu pour avoir toujours des très, très belles chaussures. Là, je suis plus souvent en basket. C'est vrai que je fais attention et je me pose souvent la question des gens que je vais rencontrer, croiser sur mon chemin, avec une hypervigilance qui me rappelle celle du tout début de ma transition ou même des années où j'étais plus fluide dans mon genre et j'explorais. Et il y avait cette peur-là. C'était avant les années Obama, c'était avant qu'on ait tout le... je dirais, l'explosion d'éducation qui a été très, très positive. Parce que là, on voit que le sombre, malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans les 20 dernières années. Mais je trouve qu'il y a un retour à ça. La différence qu'avant, il y avait de l'incompréhension, mais maintenant, il y a de la hargne. Maintenant, on est sur une sorte de projet politique. Les gens qui ne nous aiment pas font de nous des enjeux politiques sur lesquels ils peuvent récolter des votes. Donc, c'est ça le sujet, malheureusement.
Ouf. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour ou l'autre de ça?
Nécessairement, on va s'en sortir, mais je veux dire, on a tellement d'enjeux en ce moment qu'il va falloir qu'on se sorte un peu de tout. C'est-à-dire que tout est lié.
Oui.
La façon dont on traite les personnes LGBT, mais aussi la façon dont on traite les femmes, mais aussi la façon dont on traite l'environnement, la façon dont on a laissé des génocides, le génocide de Gaza, tout ça est lié. C'est ce qu'il faut rejeter, c'est une façon de voir le monde sur lequel certains individus imposent leur vérité à d'autres. C'est la chose sur laquelle on essaye de se battre. Donc oui, on va y arriver, mais c'est un effort collectif. Probablement qu'on a encore quelques années difficiles devant nous, des gros défis de lutte, mais tout ça, c'est cyclique. Hein.
Oui.
Ouais.
On va l'espérer. Chris Bergeron, donc rappelons si les gens veulent participer à les marches des fiertés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Alors, tout simplement, aller sur notre site web, lesmarchesdelafierté.ca. Et après, c'est tout simple. Il y a un petit bouton sur lequel on appuie. Et là, c'est rentrer votre marche. En quelques lignes, on peut récolter un petit souvenir, y déposer un petit souvenir, tracer comme on trace sur un Google Earth un petit parcours. Et voilà, c'est fait.
Génial. Merci beaucoup, Chris Bergeron. Je rappelle que tu es vice-présidente contenu de marque chez Cossette Communication, autrice.
On s'est souvent croisés, oui.
Oui, on s'est souvent croisés. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi, Canal M, aujourd'hui.
Merci.
Merci. De vous rappeler la météo aujourd'hui. Québec, Ontario, prairies, alternance de soleil et de nuages, possibilité d'averses et d'orages en après-midi surtout. Les maximums de 24 à 29. Midex, ça va aller autour de 35 et un indice UV de 8 ou très élevé. Donc, c'est de la crème solaire aujourd'hui pour éviter les cancers de la peau. Gaspésie, par contre, ça va être plus frais et ça reste beau. Avertissement de chaleur au Manitoba. Généralement ensoleillé au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Là aussi, 26 à 27 degrés, humidex à 31. C'est du soleil plus frais à Terre-Neuve, 14 à 16 degrés, de la pluie à Saint-Jean. De la pluie aussi en Colombie-Britannique. Avec un avis orange de qualité de l'air, ben oui, hein, les feux de forêt, ça continue de causer des problèmes, pas seulement au sud de la frontière. Et puis après la pause, on va recevoir Mathieu Lacan qui va nous parler de son exposition Audiance-le-Duc. Et on parle aussi avec Claude Lalande du Festival Fierté littéraire qui va battre son plein en même temps que Fierté Montréal. Et c'est peut-être le dernier Festival Fierté littéraire parce que oh, les problèmes financiers sont là aussi, comme pour beaucoup d'organismes communautaires et culturels. À tout de suite!
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Allez, on va la tête dans le sky. Aujourd'hui, on taf, taf. Ce soir, on fly. Avion de papier, embarque avec moi. Je te vois dans mon café. Maintenant, on fait quoi? Ah non, c'est rien promis, mais pour me rendre accro, t'es doué. Chantonne avec le sourire, j'pense à comment on s'est trouvé. Mon soleil, tu m'éblouis, j't'ai dans la tête, j'dois l'avouer. T'es ma chanson préférée, t'es ma chanson préférée. Pourquoi t'es toujours dans ma tête, comme un refrain qui se répète? T'es ma chanson préférée. Donne-moi ton cas, hein. J'ai des vagues dans les veines, ou de vie dans nos verres, c'est la vie d'Aloca. Hein. Avant j'étais down, mais j'ai le feu dans les yeux. Vas-y, on plane, que t'as tombé dans le ciel. Te plane et on chante, te plane et on parle. Tant qu'on passe du bon temps, aucun plan, c'est seul plein.
Le monde, on s'était promis pour me rendre accro, t'es doué. Chantonne avec le sourire, on n'a plus rien à se prouver. Mon amour, tu m'éblouis, j't'ai dans la tête, j'veux plus jouer.
Chanson préférée. Pourquoi t'es toujours dans ma tête, comme un refrain qui se répète? T'es ma chanson préférée.
Pourquoi t'es toujours dans ma tête, comme un refrain qui se répète? T'es ma chanson préférée.
T'es la plus jolie des mélodies. J'ai chanté ton prénom toute la journée. Je sais pas si on te l'a déjà dit.
Aujourd'hui on taffe, taffe, ce soir on fly. Avion de papier, embarque avec moi. Je te vois dans mon café. Maintenant on fait quoi?
Ma chanson préférée par Rims et Emmanuel Kerry.
Merci. Bien, nous, décidément, hein, les sujets aujourd'hui s'alignent. C'était pas une intervention divine, ça a donné comme ça. On est à la veille du lancement du Festival Fierté Montréal, un des plus grands festivals de fierté au Canada et dans le monde aussi, dans la francophonie. Et le sujet qui suit, ben, fera pas exception au fait qu'on parle un peu de sujets reliés à fierté, parce que dans le cadre du 30e anniversaire du Musée des Beaux-Arts du Mont-Saint-Hilaire, l'artiste et écrivain Mathieu Lacan présente une exposition sur Audiance-le-Duc. Le plus grand peintre décorateur d'église québécois, Corélieu, retrouvé. Alors, Mathieu, bonjour.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, on va arriver tantôt à faire le lien avec tout ça, mais d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à réinventer l'atelier disparu d'Audiance-le-Duc? Parce que je pense que c'est ça qu'on voit hein, à l'exposition.
Entre autres, oui, en fait, il y a beaucoup de choses à l'exposition, il y a beaucoup de contenu. L'expo tourne autour de trois grands artistes de Mont-Saint-Hilaire, Audiance-le-Duc, Paul-Émile Bordoy, qui a été son élève, et Jordi Bonnet. Et la genèse de l'expo, c'est que je suis allé pour visiter l'atelier Corélieu, qui est C'est l'atelier de Leduc. Il l'a appelé comme ça parce qu'il disait que c'est l'endroit où le cœur est en tout.
Mm-hmm.
Et l'endroit a été... il y a eu des incendies dans les années 80, ça a été démoli. Alors, j'étais très déçu parce que c'était un lieu vraiment mythique d'échange entre artistes. Il y a eu plusieurs générations d'écrivains qui se sont... d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes. C'était vraiment une espèce de pôle culturel là, pendant des décennies, de la fin du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Les automatistes se sont rencontrés là, Riopelle, etc. Alors, c'est un personnage qui a suscité ma curiosité, Georges Leduc, parce qu'il y a vraiment un mythe autour de lui. Alors, j'ai décidé de faire cette exposition-là qui recrée son atelier. Mon mari l'a recréé sous forme de maquette. Et moi, j'ai peint des tableaux et j'ai fait des dessins avec des références à ses œuvres. Et là, on a décidé d'étendre la formule aux deux autres artistes de Saint-Hilaire, donc Bordua et Bonnet. Donc, on a recréé leurs trois ateliers résidence dans la salle d'exposition. Et j'ai peint des œuvres aussi qui font des références à leurs œuvres. Donc, j'ai fait une grosse recherche sur les trois artistes en question.
Oui, il y a une grande toile, je pense, qui s'appelle Le génie de la montagne, c'est ça, où tu réunis les trois artistes?
Oui, ça, c'est un peu anachronique parce que Jordi Bonnet n'a jamais rencontré Paul-Émile Bordua ni Osiris Leduc. Mais j'ai comme recréé par l'imagination une scène d'atelier avec un modèle nu et les trois travaillent. Parce que c'est vraiment mystérieux pourquoi il y a eu tant d'artistes influents dans ce village, en fait. Ce village, au début du 20e siècle, il y avait quelques milliers d'habitants qui habitaient là seulement. Donc, pourquoi tant d'artistes sont venus ou ont habité à Mont-Saint-Hilaire? Et je pense que la montagne, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais oui. C'est magnifique. Là. C'est magnifique. Le village, la ville est entre le Richelieu et la montagne. C'est très impressionnant. Donc, je pense que ça a joué beaucoup sur le fait d'en faire un lieu où les artistes se sont réunis. Là. C'est un endroit assez magique, finalement.
Oui, ça peut être une bonne explication que la montagne aurait inspirée. Du moins, on peut le croire, puis c'est comme ça. Hein? On n'est pas dans la tête de ces personnes-là, mais ça donne quand même une bonne idée là, de l'endroit qui est assez spectaculaire aussi. C'est beau, ce coin-là.
Ouais.
En fouillant dans les archives, tu as quand même découvert un secret, puis je vais te laisser le raconter, concernant Osias Leduc.
Oui, Osias Leduc. Donc, c'est ça, j'avais eu d'abord quelques soupçons, c'est-à-dire que Osias Leduc, il faut savoir qu'il s'est marié avec sa cousine, qui était plus vieille que lui. Il s'est marié très tard, à l'âge de 41 ans. Sa cousine, qui était la femme de Luigi Capello, qui lui a enseigné à Leduc la décoration d'église. Alors, ça avait un peu éveillé mes soupçons. Et je trouvais que ça ressemblait à un mariage de convenance. T'sais, elle était dans une situation précaire, une femme abandonnée par son mari, elle a tenu des maisons de chambre, elle était dans une situation vraiment précaire. Alors ça avait suscité ma curiosité et aussi j'ai vu au Musée des Beaux-Arts de Montréal un magnifique portrait que Leduc a peint d'un jeune poète qui s'appelle Guy Delahaye. Un portrait qui glorifie ce jeune poète-là là, avec un personnage mythologique derrière. Il est de profil un peu comme un médaillon de d'Ovide ou de Virgile. Alors, je trouvais que c'était... Puis il a fait plusieurs portraits de ce poète-là et il a fait aucun portrait de sa femme. Alors, je trouvais ça très curieux. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas que de l'amitié. Ça ne peut pas être que de l'amitié, mais tant d'efforts pour représenter son ami de manière si glorieuse. Alors, j'ai fouillé, j'ai contacté des historiens, j'ai fouillé, je suis allé dans les archives, j'ai lu les lettres qui se sont échangées et j'ai rassemblé énormément d'indices sur le fait qu'il aurait entretenu une relation amoureuse dans les années 1910. Et il y a des lettres qui ont disparu du fond d'archives, qui ont été inventoriées et qu'on ne retrouve plus. Donc, c'est vraiment un tabou qui est levé là, avec cette recherche-là. Et ça figure à l'exposition. J'ai fait une toile sur le thème de cette relation amoureuse secrète. Et Guy Delahaye, c'est aussi un personnage très intéressant. Là, c'est un poète qui a publié deux recueils modernes qui ont fait scandale. Un personnage tout aussi intéressant. Et cette recherche-là m'a amené, en plus de l'exposition, à écrire un livre sur la relation, tout sur mon enquête, en fait, et sur cette relation-là entre Delahaye et le duc, parce que ça éclaire leur œuvre d'une manière complètement nouvelle. Des œuvres qui étaient très mystérieuses, qu'on ne comprenait pas trop, des paysages de Leduc qu'on se disait « oui, c'est très beau, c'est très séduisant, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. » Et là, au fil de cette recherche-là et à la lumière de cette relation-là, ça prend un sens complètement nouveau et vraiment, vraiment intéressant.
Alors ce livre, il est disponible maintenant ou il sera disponible bientôt?
Il s'intitule non, comment? Il est en cours d'écriture.
Ouais. Ah oui, c'est ça, j'avais compris, j'ai écrit, mais tu es en train d'écrire, d'accord. Donc ouais. Ce sera un livre qu'on va bientôt pouvoir lire et en apprendre davantage sur cette histoire.
Mais en attendant, il y a l'exposition qui est vraiment intéressante, qui n'est pas uniquement sur le sujet de cette relation-là, évidemment. Le Duc, c'est un des trois artistes que je représente à l'exposition, mais elle figure quand même dans l'exposition. Comme j'ai dit, j'ai fait une grande toile sur le thème. Mm-hmm. Et on a aussi un beau catalogue là, où il est question de ma recherche sur les trois artistes. Donc, c'est une expo avec beaucoup, beaucoup de contenu qui va être à l'affiche à Mont-Saint-Hilaire au musée jusqu'au 27 septembre. Et je vais donner des visites guidées régulièrement. J'y vais pour faire des visites guidées, donc si les gens sont intéressés par la démarche.
Ben, en fait, avant d'aller à ma prochaine question, si les gens veulent s'informer, là, ils vont où là, s'ils veulent faire partie de ces visites guidées ou avec toi?
Ben, sur le site du musée, Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, ou encore ils peuvent me contacter via les réseaux sociaux, je répondrai.
Oui, tu es assez rapide sur les réseaux sociaux quand on te contacte. Ça, c'est vraiment une grande qualité. Merci beaucoup pour ça. Juste une question, moi, que j'ai trouvée intéressante en lisant sur cette exposition. Tu associes la bonté à Leduc, la liberté à Bourdieu et le mystère à Bonnet. En quoi la bonté, la liberté et le mystère définissent-ils ces œuvres que tu présentes?
Bien, je voulais leur assigner un peu une qualité comme ça pour les rendre pertinents aujourd'hui. Tu sais, que ce soit pas strictement par intérêt pour l'histoire de l'art que les gens viennent voir l'expo, mais que ça leur donne quelque chose dans leur vie d'aujourd'hui. Et le duc, c'est un personnage extrêmement, extrêmement intéressant. La bonté, pour moi, ses œuvres, c'est un peu la splendeur de la bonté, si on veut. Je veux dire, il y a une touche caressante, c'est attendrissant. Le duc, c'est comme du miel, là, regarder ses tableaux. Et puis même le personnage était extrêmement accueillant. Tout le monde était les bienvenus chez lui. Il a reçu des gens. Là, il y a des liasses de noms de visiteurs dans son fonds d'archives sur les gens qui venaient le visiter, les curieux, n'importe qui. L'activité de la fin de semaine, c'était d'aller chez le duc. Alors, c'est pour ça que je lui ai assigné la bonté. Bourdieu, ben, la liberté, parce qu'il en a souffert énormément. Il a pris une position de principe avec le refus global pour la liberté artistique, et puis il a payé le grand prix. Hein. Il a perdu son emploi, sa famille a éclaté, il a été poussé à l'exil. Alors, pour son courage, c'est la raison pour laquelle il est le père de la modernité artistique au Québec. Donc, moi, je lui assigne la liberté. Et Bonnet, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs tragédies dans sa vie. D'abord, il est espagnol, né à Barcelone. Quand il était enfant, il y avait la guerre civile en Espagne. Il était témoin de choses horribles. Et ensuite, ben, très rapidement, quand il était enfant, il a subi l'amputation de son bras droit à la suite d'un mauvais accident, puis à cause de la guerre aussi, parce qu'il y avait une pénurie de pénicilline. Donc, ça l'a beaucoup affecté sa vie. Il a décidé de s'établir ici, de recommencer à zéro. Et quand il avait une jeune famille, son enfant de 10 ans, Stéphane, a été frappé par une voiture à Mont-Saint-Hilaire, donc il est décédé. Donc c'est quelqu'un qui a vécu de nombreuses épreuves, qui est décédé très jeune d'ailleurs, à 47 ans. À 41 ans, on lui avait diagnostiqué une leucémie terminale, probablement à cause des vapeurs de peinture qu'il respirait. Il se protégeait pas quand il faisait de la céramique. Alors, quelqu'un qui a été éprouvé. Et pour ça, toute son œuvre, en fait, c'est un peu un exercice pour dépasser la mort. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la murale du Grand Théâtre à Québec.
Oui.
C'est comme un immense, j'ai envie de dire tombeau, mais c'est pas exact, parce que c'est pas si sombre que ça. mais c'est très, très, très spirituel. Tout est très spirituel. C'est l'au-delà. Et puis, on sait aussi, ça crée un énorme scandale.
Oui, vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande de caravans.
Ouais.
Mathieu, d'accord, on va devoir s'arrêter ici. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Corélie Retrouvé se tient au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire depuis le 20 juin. Ça se termine le 27 septembre. Pour avoir peut-être droit à une visite guidée avec l'artiste, il faut aller sur le site du musée ou encore le contacter sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci, Denis Martin. Bonne journée.
Au revoir.
Plastique, un peu plus de musique. On a besoin de quelque chose, un peu moins de fanfare, un peu plus de guitare pour voir.
Marie-Pierre Leduc revisitait La vie en rose.
Et on va continuer avec le thème des fiertés avec cette dernière entrevue de l'émission aujourd'hui. Du 31 juillet, on le sait, jusqu'au 8 août, se tiendra la 15e édition de Fierté littéraire, hein, en même temps que la 20e édition de Fierté Montréal. Fierté littéraire, c'est un rendez-vous célébrant la diversité des voix queer dans la littérature. Mais cette édition anniversaire s'ouvre sur une grande précarité en raison de coupes budgétaires qui s'élèvent à peu près à 40 % du budget. Ça met ainsi l'avenir même de l'événement en péril. Pour aborder la programmation et ses enjeux majeurs, nous recevons aujourd'hui Claude Allende, président du conseil d'administration de Fierté littéraire. Salut Claude!
Bonjour Denis Martin.
Alors, tout de suite, là, par souci de transparence, Claude et moi, on est des amis et on travaille ensemble à Fierté littéraire, mais je vous promets, je vais faire une entrevue non complaisante et rigoureuse. Cette 15e édition, Claude, pourrait être la dernière à raison d'une baisse de 40 % des ressources de Fierté littéraire. Comment en est-on arrivé à une situation financière aussi critique?
Ben, la raison principale, c'est qu'on est financé par projet.
Ouais. Donc, comme beaucoup d'organismes communautaires beaucoup, et culturels,
oui. Oui, tout à fait. Et malheureusement, ça nous empêche, premièrement, d'embaucher du personnel pour le long terme. Ça nous empêche de planifier à long terme. Donc, on est pogné à recevoir des décisions de financement un petit peu à la dernière minute. Et puis, on doit vraiment composer avec ça. Donc, c'est le roche, parce qu'on n'a pas de financement de fonctionnement global.
Donc, il y a aussi des moments où on se retrouve, oups, cette année, on ne reçoit pas le financement escompté. Et c'est ce qui est arrivé cette année.
C'est ça, c'est ça. Quand même une grosse baisse de notre financement. On a dû couper des événements. Donc, on passe de 8 événements sur scène à 6, parce qu'il y avait les deux événements de Queer Academy.
Concours littéraire, là, oui.
Concours littéraire pour les auteurs, autrices, auteurs émergents. Mm-hmm. C'est dommage, mais on a eu un partenariat, cependant, qui nous a permis de faire une autre forme de concours littéraire. Puis,
oui, allons-y justement de ce partenariat, parce que c'est un prix qu'on dit de l'autrice émergent 2EGBTQ+. C'est quoi?
Oui, tout à fait. C'est justement un partenariat avec un organisme anglophone au départ, qui se bilinguise et qui a décidé de nous confier le concours de l'auteur autrice émergente francophone. Donc, c'est le Lambda Scholarship Foundation. Et eux ont un concours depuis très longtemps et on le fait en français cette année pour la première fois dans le cadre d'un de nos événements, des livres et des paillettes animés par Jessie Précieuse.
Oui, qu'on adore, qui est très, très bonne. Pour ceux qui ne connaissent pas Jessie Précieuse, hein, c'est en tant que civil, Alex Verville est météorologue à Météo Média.
C'est en plein ça.
Et drag queen à César. Et donc, cet événement-là va permettre de connaître les quatre finalistes. Hein?
Oui, les quatre finalistes vont adopter la formule traditionnelle des livres et des paillettes, c'est-à-dire discuter chacun et chacune de leurs livres. Et puis, à la fin de l'événement, on dévoile le gagnant ou la gagnante du concours littéraire.
Parlons des événements phares de Fierté littéraire. Il y en a un qui revient cette année, les signes de la diversité, ça c'est le 1er août.
Oui, ça c'est à 15h,
ouais.
Place du Village.
Oui, tous les événements sont à la Place du Village.
Hein, sauf un, parce qu'il y en a un qui implique de la nudité, alors on ne peut pas faire ça Place du Village
Tout à fait. Donc, les signes de la diversité, c'est animé par Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard.
Oui, c'est en fait un événement fort intéressant qu'on tient pour la deuxième fois et qui renverse les rôles. Parce que on a des artistes qui vont faire leurs prestations en langage des signes québécois et les interprètes, plutôt que d'interpréter pour les personnes malentendantes, les interprètes vont le faire de vive voix pour le public entendant. Mmh. Donc, c'est une espèce de renversement des rôles et du pouvoir, en fait.
Et ça va vraiment dans la vision d'inclusion de Fierté littéraire?
Tout à fait. On a toujours voulu faire de l'inclusion. On est obligé cette année de limiter l'interprétation par signe pour des raisons budgétaires, mmh. en fait. Mais cet événement-là et un autre vont avoir de l'interprétation. Donc, c'est le message d'inclusion. On veut toutes les communautés qui font partie de notre communauté queer, mais on a les personnes malentendantes, on a les personnes BIPOC.
BIPOC ou PANDESI, qui sont des personnes autochtones, noires ou de couleur. C'est un événement intéressant qui est animé par une personne qui est alliée des communautés.
Oui, c'est une alliée. On ne dira pas une folle alliée, mais on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble.
Oui, Maggie Métellus.
Dont c'était l'anniversaire hier, alors on le souligne. Puis il y avait un autre anniversaire hier.
C'est le mien. Oui, j'ai atteint l'âge de prendre le transport en commun gratuitement à Montréal, donc 65 ans.
Oui.
Donc c'est un événement qui met en valeur ou de l'avant des personnes de la diversité culturelle au sein de la diversité sexuelle et de genre.
Oui.
D'autres événements qu'on devrait prendre en compte?
Bien, on a toujours le combat homo qui sera le 3 août cette année, qui permet de discuter avec des artistes qui vont débattre dans un combat amical de 4 livres. Et à la fin de ce combat amical-là, il y a une personne qui est déclarée gagnante.
Ouais.
Puis ça, c'est animé par une autre alliée, oui. En fait, Amélie Boivin-Anfield, oui. Qui fait des émissions de littérature.
Là. Ah oui, depuis longtemps. Une personne qui est très, très versée là-dedans.
C'est ça.
Puis il y a toujours la soirée de poésie aussi.
Oui, ou la poésie.
Pas une soirée, parce que c'est toujours de 5 à 7, oui.
On fait les 5 à 7 cette année. Ouais. C'est ça, transpoésie, parce que la poésie transcende les genres.
Oui, et parce que l'animatrice...
est trans.
Oui, Pascale Cormier. Et puis oui, on en a glissé un petit mot tout à l'heure, le grand TFH littéraire.
Oui, ça, c'est le seul événement payant, parce qu'on ne veut pas de la nudité gratuite. Mais c'est un événement qui permet aux personnes qui font leurs prestations, leur lecture, d'être dans toute leur vulnérabilité et puis présenter des textes qui sont souvent émotivement très, très, très prenant. Mm-hmm. Justement parce que cette situation de vulnérabilité-là est vraiment... monte le niveau d'émotion d'un cran.
Oui, puis encore une fois, par transparence, j'anime cet événement depuis... Je l'ai créé depuis un bout de temps. Et oui. J'ajouterais que la vulnérabilité, à certains moments, ça change de place.
Oui.
Et ce sont les personnes dans l'auditoire qui sont très vulnérables devant ce qu'elles voient sur scène. Et
c'est ça.
Le pouvoir des mots, le pouvoir de la situation est très, très fort.
Oui, puis cette année, un de nos artistes va impliquer le public dans une performance participative, mais... le public n'a pas le droit de se déshabiller.
De son, le public, on ne demandera pas au public de se déshabiller, mais il va participer peut-être.
Oui.
Rapidement, journée communautaire, ça c'est le 8 et 9
le
août.
Le 7 et 8.
Le 7 et 8 août, oui.
Oui, c'est dans le village. On a un kiosque où des écrivains et écrivaines de nos communautés viennent faire des dédicaces, rencontrer le public. Et puis, on a aussi le vagabondage littéraire, qui est une formule absolument merveilleuse, où on va se promener avec des livres, faire des lectures au hasard à des personnes, et s'ils aiment le livre, ben on leur donne.
Ah, ça, c'est le fun, ça.
Ouais.
Bon, tout ça pour dire, par contre, que ces belles activités-là pourraient ne pas revenir l'an prochain, et là, faudrait que la communauté se mobilise.
Oui, tout à fait. Donc, venez nombreux, parce que pour avoir nos subventions, il faut qu'on ait un impact, un auditoire. Et puis, n'hésitez pas à vous mobiliser pour que nos communautés soient financées convenablement.
Claude Lalande, président de Fierté littéraire, merci beaucoup. Pour plus d'informations, fiertelittéraire.ca. Merci beaucoup. Ben, gros merci à l'équipe aujourd'hui. Maurice Bolduc, ben, finalement, le tour de vélo s'est bien passé, Maurice?
Oui.
Oui, hein, ça a bien été.
Dans celle-là.
Oui, fait qu'on, nous, on revient. Ben, en fait, demain, c'est Hélène qui revient à la barre de l'émission. Elle sera là pour la semaine. Et moi, je reprends l'animation la semaine prochaine, tous les jours, là, pendant un mois. Je vais remplacer Hélène pendant ses congés. Merci donc, comme j'ai dit, à Maurice Bolduc. Merci aussi à Hélène Denis qui nous a donné un coup de pouce à la recherche. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Un autre rendez-vous ce soir à 17h pour une reprise de l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. On rediffuse des épisodes pendant la saison estivale. C'est toujours pertinent. Alors, merci beaucoup d'être là et à la semaine prochaine.